Cette balado-diffusion a été réalisée au Congrès national 2009 du SCFP.
Confrères, consoeurs, c'est un privilège de vous présenter confrère Jack Layton. Vous le connaissez, vous l'avez vu souvent de fois à la télévision. Point de besoin de faire une longue présentation. Jack a passé plus de 20 ans au service public du Canada. À titre de conseiller municipal, érudit, président de la Fédération des municipalités du Canada et président du conseil, commission d'hygiène de la ville de Toronto. Il est membre du SFP depuis toute sa vie et depuis 2003, il est chef de parti. En 2008, il a augmenté le caucus fédéral de 25%. Donc, la deuxième plus importante équipe néo-démocrate de l'histoire du parti. Encore plus important, si vous connaissez Jack, vous savez qu'il parle toujours de politique et des questions qui affectent les travailleurs canadiens, les familles canadiennes. Jack Layton, un très bon ami du mouvement syndical, un très bon ami du SFP. Je ne sais pas combien de temps on parle au téléphone, mais au moins une fois par semaine et parfois plus souvent. Il a rencontré notre conseil exécutif national. Il a pris la parole comme conférencier principal à la conférence sur l'action politique dans les provinces maritimes. Et Jack nous appuie depuis toujours. Il m'a téléphoné au moment difficile aussi. Il m'a téléphoné quand notre parti a pris une position pour appuyer nos troupes, mais contre la guerre. Et il a été fustigé de partout en disant que il fallait parler avec les gens de l'Afghanistan, même ceux qu'on n'aime pas. Et on l'a fustigé. Aujourd'hui, le président des États-Unis d'Amérique et le monde entier dit ce que Jack Layton a dit il y a 2 ans. Jack parle au Parlement, il dit des choses comme ça, non pas parce que c'est populaire, mais parce que c'est juste. Et Jack Layton est guidé par les principes. Alors, confrères, consoeurs, un accueil des plus chaleureux pour notre ami, mon ami, votre ami, l'honorable Jack Layton.
A tie today, but say hi to Jack.
Mon, t'as dit, il n'a même pas de cravate. Alors, Jack Layton. Alors, bonjour.
Est-ce qu'on a amusé bien hier soir à Montréal?
Un peu trop.
C'est la ville de ma naissance et je suis fier d'être ici à Montréal avec vous tous. Et merci pour cet accueil chaleureux ce matin. Merci Paul, Claude, tous les membres de l'exécutif et tous les amis, les confrères et les consœurs qui sont ici aujourd'hui. So it's Thanksgiving weekend coming up.
Alors donc c'est la fin de semaine de la fête de l'Action de grâce. Et je vais, dans un premier temps, remercier l'SFP. Je vais remercier le CFP de votre soutien, de votre encouragement. Mais il y a une consoeur que j'ai pu voler à la famille du CFP. Elle s'appelle Anne McGrath et elle est ma directrice de mon bureau. Anne, est-ce qu'elle... Où elle est? Tiens, là, voilà, elle est au centre. Elle se lève. Anne McGrath, directrice de mon bureau. Membre de CFP, bien sûr. J'allais faire la liste de tous les membres de CFP qui sont ou bien candidats ou bien membres des différents conseils exécutifs, instances décisionnelles, membres du conseil exécutif de circonscription. Mais là, ça aurait pris 20 minutes et je n'ai pas plus de temps que ça. Alors, je vous remercie tous de faire partie du mouvement politique qui va changer le Canada. On l'a fait dans le passé et on va le faire à nouveau, croyez-moi. Deuxièmement, je tiens à vous remercier des services essentiels que vous offrez aux Canadiens. Quand on pense à la vie au Canada, Et je l'entends surtout dans la bouche des nouveaux immigrants qui apprécient des choses de façon très spéciale, comme la mère d'Olivia, ma femme. Et c'est presque toujours les services publics que nous offrons, soins de santé, éducation, tous les services sociaux, qui sont la raison qui anime les gens pour choisir le Canada. Et je vous remercie d'offrir ces services à tous les Canadiens, partout au Canada, à tous les jours de l'année. C'est très important. Merci beaucoup. Merci pour les services que vous offrez. Et à l'heure actuelle, les services publics sont plus importants que jamais. Je sais bien que vous sont ici pour représenter vos membres. Vous êtes délégués ici et vous voyez les répercussions de cette récession parce que vous êtes sur le front, vous êtes au cœur de l'action. Vous qui travaillez, par exemple, dans les garderies, vous savez qu'il y a des familles qui viennent vous voir pour dire « On a perdu un emploi, on n'a plus les moyens de payer la garderie. » Et je sais bien que vos membres, vous travaillez auprès de ces jeunes, de ces enfants, et vous êtes inquiets de l'avenir, n'est-ce pas? Et voilà pourquoi il nous faut un plan de garderie partout au pays, de grande qualité, secteur public, développement de la petite enfance, et nous avons présenté un projet de loi pour réaliser ce vœu, ce désir. D'aucuns, vous travaillez souvent dans le secteur municipal, secteur que je connais très bien. J'ai passé 20 ans à titre de conseiller municipal et président de la Fédération canadienne des municipalités. Et quand j'étais membre de l'exécutif de la Fédération, nous avons invité les travailleurs municipaux à assister à notre congrès. Et maintenant, les travailleurs municipaux et le CFP occupent une place de choix et d'honneur auprès des municipalités à nos réunions de la Fédération. Je vous remercie tous et chacun d'avoir accepté notre invitation. Mais par les moments qui courent, vous êtes au bout du fil, vous êtes assis à votre pupitre et il y a quelqu'un qui a perdu son emploi, qui n'a plus davantage de l'assurance-emploi, qui doit se tourner vers le bien-être social. Et c'est très difficile pour tout le monde. Et voilà que vous devriez faire respecter les règles tout en ayant de la compassion pour ce malheureux. Il y a 500 000 personnes qui ont perdu leur emploi depuis 12 mois seulement au Canada. 500 000. C'est une honte. Et vous voyez, vous, les conséquences de tout ça. Parce que vous êtes au cœur de l'action. Ce n'est pas juste des chiffres pour vous. Non. Et ce qu'il nous faut, c'est plus de soutien pour les services publics et les travailleurs municipaux qui aident les gens nécessiteux. Parfois, il y en a qui travaillent dans les foyers aux personnes âgées. Vous êtes obligé de travailler avec des familles qui souffrent de cette récession. Et vous voyez les conséquences. J'ai parlé avec ces gens-là. Vous voyez la pauvreté, vous voyez la difficulté de ces gens-là qui n'ont pas de soutien. Vous voyez les difficultés maritales, par exemple, les conséquences pour les enfants. Parfois, vous êtes peut-être ambulancier, technicien. Je sais qu'il y a, je connais un cas, il y en a bien trop, une ambulance qui arrive devant une maison dans la ville de Dryden, en Ontario, où le moulin a fermé ses portes, mettant sur le parquet, sur le pavé, des centaines de travailleurs. Il n'y a plus d'autres emplois. Et voilà, un travailleur était tellement au désespoir qu'il s'est suicidé. Et les ambulanciers techniciens sont les premiers arrivés, n'est-ce pas, avec la famille. Il y avait 4 suicides comme ça dans la ville de Dryden en 6 semaines. 4 suicides. Vous êtes sur le front de cette récession à bien des égards. Soins de santé, par exemple. Là, vous voyez les conséquences du stress pour les familles. Et bien sûr, on vous demande aussi de jouer un rôle très important devant, bien sûr, cette pandémie H1N1. Et vous voyez les conséquences possibles pour vous et pour votre famille. Pour toutes ces raisons, le gouvernement devrait toujours appuyer les travailleurs du service public. Et les néo-démocrates seront toujours solidaires derrière vous, derrière les travailleurs du secteur public. Toujours.
Forestier de l'automobile, vous connaissez les gens qui souffrent à cause de la perte d'emploi dans ces secteurs clés dans notre économie. Et avec la réduction des impôts qu'ils puissent payer comme chômeurs, le revenu pour le gouvernement et pour les services est en baisse. C'est une réduction importante. Et même pour vos familles, peut-être vous avez quelqu'un qui a perdu son emploi, qui ne travaille pas dans le secteur public, par exemple. Alors, pour vous, je sais qu'il y a des personnes qui doivent trouver des heures supplémentaires pour payer les factures chaque mois et pour joindre les deux bouts. Mais une chose n'est pas assez bien comprise, c'est que votre travail aide le Canada à prospérer. And I want to give you an interesting...
Et je veux vous donner un chiffre intéressant, publié ce matin, qui prouve ce que je viens de dire. On nous dit que le taux de chômage a baissé d'un ou deux points, un dixième de point, depuis le mois dernier. Mais si on examine les chiffres de près, on constate que les emplois du secteur privé baissent toujours. Et c'est parce qu'il y a une augmentation de l'emploi dans le secteur public qu'on a des jobs au Canada. Alors, si les gens me disent, « Oh, ben écoutez, la solution, c'est de couper du côté public », cette personne ne comprend rien à notre économie et on ne peut plus supporter cela. Il faut appuyer les services publics parce que c'est bon pour l'économie. Cependant, on entend tout, déjà les tambours. Les tambours de droite. Et des banquiers. Alors, des économistes des banques savent ce qu'il faut pour la prospérité des banques, mais ils ne savent pas quoi faire pour la prospérité des citoyens. Ils disent, oh, ben on a une grosse dette. Ils disent, oh, mais là, bâton tambour, parce qu'il faudra couper. Il y a des conséquences. Je sais que ça vous préoccupe, à raison, parce que ce n'est pas la première fois qu'on a vu ça. On a vu ça en Ontario avec Mike Harris. La moitié de son conseil d'administration maintenant fait partie du conseil des ministres de M. Harper. Alors, si vous abandonnez le service public, vous laissez tout le monde dans le froid et vous nuisez à l'économie. Ce n'est pas le moment de couper des emplois de la fonction publique. C'est le moment de faire prospérer la fonction publique, de rajouter des emplois. Cependant,
on voit une augmentation d'inégalités dans notre société. Les extrêmes de la richesse et la pauvreté sont augmentés, sont soulignés pendant cette crise. Mais une chose est clé pour la réduction de l'injustice et l'inégalité sociale et économique. Ce sont des services publics. Public services are...
La fonction publique, les services publics sont le moteur d'égalité, moteur de l'égalité de notre société. Pensez, par exemple, aux soins de santé. Chez nous, une des valeurs fondamentales des Canadiens, c'est que où que vous soyez, qui que vous soyez, quel que soit votre portefeuille, quel que soit votre fiche de crédit, qu'importe, ça n'a rien à voir. Car quand vous avez besoin de soins de santé, riche ou pauvre, d'un bout à l'autre du pays, vous avez une carte d'assurance santé et vous avez les soins dont vous avez besoin. Ce n'est pas votre carte de crédit et on ne peut pas vous refuser les soins dont vous avez besoin. Il y va de l'égalité, de la justice. Il n'y a rien de plus important que la santé de votre famille. Et au Canada, nous disons qu'il y a accès égal aux soins pour tous. Donc, il y va de l'équité, de l'égalité, de la justice pour tout. Urgences, services gouvernementaux, garderies, éducation. Il s'agit d'être juste et équitable envers tous les Canadiens. Alors donc, les coupures, la privatisation, sous-traitance de ces services veut dire qu'on va diminuer l'égalité et la justice. Et ce n'est pas correct. Et il y aura une bataille là-dessus, une bataille rangée dans les mois et années à venir à la suite de cette récession économique. Car il est certain, comme la nuit qui suit le jour, qu'il y aura des gens qui vont dire, oh, mais non, il faut retourner au statu quo ante avant la crise, comme si nous n'avions rien appris. Je vous dis que non, il ne faut pas retourner aux vieilles méthodes. Il faut innover, il faut trouver de nouvelles idées, il faut évoluer, progresser et aller de l'avant. Et je vais parler de ça ce matin. Brièvement, je sais que vous avez beaucoup de travail à faire. Alors, je tiens à parler de plusieurs choses. D'abord, on va parler des choses qui sont injustes, qui sont présentées.
L'échec des PPP, qui n'ont pas été capables de développer les infrastructures dont nous avons besoin, au lieu de privatiser le secteur public, pourquoi ne s'attaque pas, par exemple, aux bonis exagérés des PDG et des autres dirigeants? Les autres dirigeants de l'Office de l'investissement du régime de pension du Canada obtenu 7 millions de dollars en bonis il y a quelques mois, après avoir perdu 24 milliards des épargnes des gens l'an dernier. C'est incroyable.
Imaginez si vous perdiez des milliards de dollars au travail, vous ne serez pas en droit de vous attendre à des primes, à des bonis. Ben, c'est comme ça, ça se fait. Même avec nos régimes de retraite. Et la semaine dernière, Ken West a fait faillite, a demandé la protection de faillite. Et ainsi, on va compromettre les régimes de retraite de ces travailleurs qui sont maintenant congédiés. Mais les PDG, même au moment de demander la protection des créanciers, ils ont mis de côté 10 millions de dollars pour des primes pour un tout petit nombre de dirigeants. Ils ne comprennent pas. On ne devrait pas permettre ça. On ne devrait pas. Car si on veut voler l'argent aux travailleurs qui ont bâti la compagnie, vous ne devrez pas vous donner des récompenses en même temps. C'est honteux. Alors, comme je l'ai dit, vous êtes là au cœur de l'action. Vous savez ce qu'il faut faire. Nous parlons avec des Canadiens de partout au pays depuis quelques mois. Et voilà ce que les gens me disent. Ils disent, Jack, nous ne voulons pas d'élection. Nous voulons de l'aide pour les gens qui sont sans emploi. Et voilà ce que nous faisons. Nous voulons aider les chômeurs. Et je dois vous dire que je me suis assis avec le Premier ministre et j'ai dit à M. Harper, les visages des gens que j'ai rencontrés partout au pays, des gens qui ont perdu leur emploi, et j'ai dit, il faut aider ces gens-là. Je sais que ce n'est pas votre idéologie, ce n'est pas votre orientation philosophique, mais il faut aider les gens. Imaginez, mettez-vous dans cette conversation, vous, là, vous, les délégués. Et j'ai dit, écoutez, il faut aider ces gens-là. Et j'ai fait un plaidoyer d'un être humain à l'autre. Et quelqu'un dit, ouais, bonne chance, Jack, bonne chance avec lui. De toute façon, on a pu quand même trouver 1 milliard de dollars qui sera acheminé à des dizaines de milliers de familles au Canada pour aider ces familles pendant ces moments de crise.
Ce n'est pas suffisant. Il reste encore beaucoup de travail à faire.
Les familles ne vont pas être aidées par ce programme, mais il y aura des dizaines de milliers de familles qui vont recevoir un peu d'aide pendant la une saison très difficile pour les familles, l'hiver, pour payer leurs factures clés. Mais on va continuer de lutter pour les autres améliorations du système d'assurance-emploi. Et ce que les Canadiens cherchent, plus que ça, ce sont des emplois. Alors, c'est clair, pour augmenter le taux d'emploi au Canada, on doit investir dans les services publics. Et on va continuer de demander une approche plus active à la part du gouvernement Harper. Et une autre chose qu'on doit faire, c'est qu'on doit protéger les pensions des retraités. We must protect the pension.
Il faut protéger les caisses de retraite des retraités, ces caisses de retraite qui ont été constituées pendant des années par les travailleurs et travailleuses. Cet argent leur appartient. Elle ne peut être volée par les gouvernements ou par les entreprises privées. Écoutez, ça vous démontre, comme le président, votre président vous l'a dit, lorsqu'on travaille ensemble, on peut accomplir de bien belles choses. Alors, nous, on a travaillé avec le Congrès du travail du Canada, le CTC. Je souhaite les féliciter par rapport à cette campagne, parce que pendant des années, lorsqu'une entreprise faisait faillite, si vous devez le salaire, vous ne le receviez pas. Si vous aviez droit à une indemnité de départ, vous ne la receviez pas. Si la compagnie n'avait pas fait de paiement dans votre caisse de retraite, vous perdiez ça. Parfois, vous pouviez perdre presque toute votre pension. Alors, ça n'a pas de sens. Les banques, les spéculateurs, eh bien, il faut pas que leurs droits à eux passent avant. Non, c'est le contraire. C'est le droit des travailleuses et travailleurs qui doit primer. Alors, voilà pourquoi on travaille avec le mouvement syndical pour que des lois soient établies, pour que les travailleurs soient en haut de la liste lorsqu'il y a ce genre de situation. Et là, je vais vous dire que je suis tannée, là, parce que je vais vous dire, mais il y a tellement de pression qui a été exercée et la campagne auprès des députés de tous les partis a été tellement efficace pour décrire les injustices que nous avons maintenant une loi où, la semaine dernière, on a proclamé la dernière partie grâce aux pressions exercées par le NPD à la Chambre des communes. Ça vise à protéger, justement, en cas de faillite, les travailleurs, travailleuses qui pourront recevoir leur pension, leur indemnité de départ, leur salaire impayé. Ils vont être en haut de la liste en cas de faillite. Si l'argent va aller vers les travailleurs, travailleuses plutôt que d'aller d'abord aux banques, aux créanciers. Voilà un autre exemple de ce qu'on peut faire lorsqu'on travaille ensemble. Mais là, il faut faire autre chose. Il faut protéger l'ensemble du système des pensions parce que, écoutez, il y a un système où c'est inéquitable lorsqu'on parle de la sécurité de la pension. Regardez, il y a 500 000 personnes âgées qui vivent vraiment dans la pauvreté, ça a doublé depuis quelques mois. Moi, ce que je sais au sujet des Canadiens, c'est qu'ils jugent que si une personne a travaillé toute sa vie, qu'ils ont parfois élevé des enfants, ils ont joué un rôle dans leur communauté, ils ont contribué à l'économie du pays pendant plusieurs années, quand ils arrivent à un certain âge, ceux qui recherchent de la dignité, du respect, eh bien, ces gens-là, ils ne méritent pas de vivre dans la pauvreté après tout ce qu'ils ont fait. Et devinez quoi, ça ne vous étonnera pas, la plupart des gens qui sont âgés, qui sont pauvres, bien, ce sont surtout des femmes. Et il y a aussi beaucoup plus de pauvreté parmi la population aborigène, parmi les personnes ayant un handicap, parmi les immigrants. Alors, encore une fois, si on veut attaquer cette question des pensions, ça nous ramène encore à ces problèmes d'égalité dans notre société. Alors, nous, on va continuer de mettre l'accent là-dessus avec le CTC.
Mes consoeurs dans le mouvement syndical, qui a décidé de faire de cet enjeu de la sécurité pour nos retraités un enjeu très, très important. Et nous avons présenté une motion à la Chambre le mois de juin, il y a quelques mois, avec tout un plan pour attaquer cette crise. Premièrement, il faut mettre fin à la pauvreté chez les aînés et augmentant le supplément de revenu garanti à la sécurité de vieillesse, dès maintenant, pour aider ces aînés. Deuxièmement, il faut augmenter significativement. Oh, I still have a problem with that word. Too many syllables. Il faut augmenter d'une façon importante le régime des pensions du Canada à la régie des rentes du Québec. Troisièmement, we've got to create a system.
Il faut établir un système d'assurance pour protéger les pensions, pour que lorsque vous aurez besoin de votre pension, qu'elle soit là, qu'elle soit disponible pour vous.
C'est une loi qui assure que les pensions non financées des caisses de retraite soient traitées en priorité si la compagnie fait faillite ou se restructure. This is the workers' first proposal. Now, here's some good news.
Alors, la bonne nouvelle, c'est que cette motion, avec toutes les idées, a été adoptée à l'unanimité à la Chambre des communes. Mais je dois vous dire, j'ai été renversée quand les conservateurs ont accepté ça. Malheureusement, un des membres de leur caucus était absent lors de la tenue de ce vote. C'était le premier ministre du Canada, monsieur numéro un au pays. Alors, je ne sais pas si ils ont fait ça par exprès ou s'ils savaient que de toute façon, ils allaient prendre la décision finale. Mais écoutez, lorsque vous allez mener des campagnes pour qu'on change les lois sur la pension, vous pourrez dire qu'à la Chambre des communes, ils ont voté à l'unanimité pour cette réforme. Alors, le moment est venu pour le gouvernement de passer à l'action. Il y a des gens qui m'ont demandé, ça va durer combien de temps cette histoire-là au Parlement? Alors, bon, je pourrais vous donner des petites informations croustillantes sur ce qui se passe à l'interne, sur la colline parlementaire. Écoutez, on a reçu une espèce de chèque en blanc. Alors, mais nous, on ne fonctionne pas comme ça. Nous, on a dit, on va analyser, par proposition du gouvernement, un cas après l'autre.
De l'action concernant nos priorités. And we're going to keep fighting.
Alors, on va continuer de mener des campagnes pour toutes sortes de dossiers comme celui des pensions, mais il y en a d'autres et vous allez voir que les membres du Parlement se préparent pour étudier énormément de projets très importants. La liste est trop longue pour que je vous la lise au complet, mais je dois vous dire que nous avons déposé un projet de loi pour avoir un système de garderie nationale. Alors, là, il y a eu une deuxième lecture. Ils en sont à la troisième lecture de ce projet de loi. On va continuer de faire des pressions là-dessus. On met aussi l'accent sur pour avoir des lois disant que le financement pour les études postsecondaires, ça devrait être une responsabilité du gouvernement fédéral. Et là, c'est la partie du discours où là, je vois un peu d'où quel secteur vous venez. Il y en a qui applaudissent plus que d'autres. Mais écoutez, on a toute cette crise qui touche tout le monde, cette crise qui vient du changement climatique, de tout ce qu'on doit faire pour protéger l'environnement. Il y a une discussion au sujet d'un projet de loi. La discussion a lieu présentement à la Chambre des communes. Et ils vont faire comme Obama, ils vont rappeler les mêmes objectifs soulignés par les Nations unies, la même chose que David Suzuki a dit. Et en fait, tous ces récipiendaires de prix Nobel, tous les spécialistes, et notre projet de loi, François, sorte que le gouvernement pourrait viser à atteindre ses objectifs et qu'on pourrait, il pourrait adopter ça avant la rencontre à Copenhague. Et là, le gouvernement pourrait dire, voilà, c'est pas juste Stephen, c'est pas juste Jack Layton qui dit ça, mais il pourrait dire, le gouvernement du Canada veut être à l'avant-garde en matière de protection de l'environnement et on serait pas juste un pays qui traînerait de l'arrière dans ce domaine-là. Et vous savez, chers amis, nous allons travailler sans nous arrêter pour tout. Parce que, vous savez, à de nombreuses reprises, on était toujours près du but. Et là, à la dernière minute, il y a des gens d'un autre parti qui portent des cravates rouges, là. Et lorsqu'on dit « faut mettre un terme aux briseurs de grève », tout ça, nous, on veut qu'une loi contre les briseurs de grève soit adoptée au pays parce que les syndicats ont besoin de notre soutien parce que grâce aux syndicats, on a une meilleure société et les droits syndicaux doivent être inscrits dans nos lois partout car c'est de cette manière qu'on va se bâtir un meilleur avenir. Alors que vous êtes debout, regardez, c'est pour ça hier qu'on a voté contre l'entente d'échange commerciaux avec la Colombie, parce qu'on veut pas avoir ce genre d'entente avec un pays qui permet, qui laisse continuer des assassinats de représentants syndicaux. Et on ne veut pas non plus que des compagnies étrangères arrivent au pays et qu'ils achètent nos joyaux économiques. On veut pas que des compagnies arrivent ici, mettent la main sur nos secteurs clés, sur nos ressources naturelles et qu'ensuite, ils mettent des gens à la porte comme à Valenco. Moi, j'étais avec Paul Moyse, j'étais dans un aréna, il faisait très froid, on était là avec les grévistes de Valenco. Et je dois vous dire, ces gens-là, ils sont vraiment juste dans plein cœur de cette crise. Alors, nous, on a réussi pour les pensions, puis on va réussir avec Valenco. Alors, merci au SCFP d'avoir soutenu les travailleurs et travailleuses des métallos, de soutenir tous les gens qui veulent défendre les droits des travailleurs.
Why it's important to provide fairness.
Pour vous expliquer pourquoi il faut offrir l'égalité à tous les gens qui travaillent. Disons que vous êtes au Québec et vous travaillez dans et que bon vous êtes francophone et il y a aucune exigence disant que vos ententes de principe ou votre convention collective, disons que c'est pas stipulé que vous êtes obligé d'avoir ça dans votre langue maternelle. Eh bien, nous, on a déposé un projet de loi à la Chambre des communes qui va préciser que les travailleurs du Québec auront le droit d'avoir les informations en français dans leur langue maternelle parce qu'on trouve que c'est important.
Notre chef adjoint du NPD, le député d'Outremont, pas loin d'ici, a présenté un projet de loi pour mieux protéger les droits des travailleurs francophones dans les lieux de travail sous juridiction fédérale. Et c'est une question d'équité, et nous allons lutter pour ça. And I want to say very clearly, we've constructed
that. Alors, nous, on a élaboré cette loi pour que ça n'empiète sur aucun droit des travailleurs de langue anglaise, car ce qu'on veut, c'est de trouver des solutions où tous les travailleurs et travailleuses soient respectés, peu importe leur langue. Le Parlement, aujourd'hui, travaille dans une certaine mesure, mais Stephen Harper, il compromet un peu ça, mais il y a une chose que j'aimerais vous dire avant de conclure. Vous savez, je suis tellement enthousiasmée d'avoir entendu dire qu'on remet le prix Nobel à M. Obama. Je vais vous expliquer pourquoi. Car les gens qui ont décidé qu'on devait lui décerner ce prix-là, ils ont pensé à l'avenir. Bien sûr, ils ont pensé à son courage lorsqu'il a dit que les États-Unis devraient se retirer de l'Irak. Et moi, je suis fier de vous dire que, dès le début, notre parti a toujours été contre cette idée d'envahir l'Irak. Et ça, on avait une position très ferme là-dessus. Mais le travail que M. Obama a fait en matière de désarmement et l'approche qu'il a aussi à l'égard de l'Afghanistan, ça pourrait changer. Les gens qui lui ont donné ce prix souhaitent qu'ils comprennent que ce qu'il faut faire en Afghanistan, c'est qu'on commence à penser à mettre un terme à cette guerre. Et le Canada devrait être un chef de file pour qu'on cesse la guerre dans ce pays. Et c'est justement un message qu'on va continuer de transmettre à la Chambre des communes. Il y aura probablement une élection à un moment donné, et bien sûr, on va être prêt. Alors, on a un mouvement qui est de plus en plus fort. Et quand je suis allé voir votre site Internet national, j'ai vu une page qui vous invite à devenir membre du NPD. Et c'est très facile aussi d'y accéder. C'est très bien. Écoutez, vous êtes des leaders. Vous jouez un rôle clé pour faire augmenter notre nombre de membres. Et j'espère que vous profitez de l'occasion pour joindre nos rangs. Parce que vous savez que plus on a de gens qui se font entendre, qui travaillent ensemble, plus les gens entendront notre voix. Vous savez qu'on travaille très fort pour transmettre notre message lorsqu'il y a des élections partielles. Alors, vous savez que la moitié des membres de notre caucus, soit la Chambre des communes, 50% de ces gens-là, ce sont des militants. Mais bien sûr, on va devoir travailler fort, comme les gens de la Nouvelle-Écosse, où pour la première fois dans l'histoire de l'Atlantique, on a fait élire un gouvernement du NPD. Alors, la vague orange a commencé à prendre naissance en Nouvelle-Écosse. Le voilà, nos délégués de la Nouvelle-Écosse, voilà, ils sont passés à l'histoire en juin dernier en élisant ce gouvernement du NPD. Évidemment, les gens du Manitoba, vous avez élu le meilleur gouvernement provincial. J'aimerais remercier Gary Doer pour le service qu'il a fait pour cette province. Bon, écoutez, je ne vais pas lire toute la liste, mais en conclusion,
je sens que je suis parmi les amis, je suis parmi les confrères et les consœurs, qu'on partage les valeurs, qu'on partage une vision pour le futur, un meilleur futur pour nos familles, pour notre pays, pour notre monde. C'est pourquoi nous sommes ici. C'est pourquoi vous avez décidé de vous présenter comme délégué ici à ce congrès. C'est parce que vous voulez changer les choses. Your people have decided.
Vous voulez changer les choses. Vous voulez contribuer au changement. C'est pour ça que vous êtes ici. Vous avez pris la décision, vous êtes allé voir les membres, vous êtes allé voir vos conseillers, et vous leur avez dit, moi, je veux faire quelque chose pour améliorer le monde. Tommy Douglas, le fondateur de notre parti, a dit, il faut avoir du courage, il n'est jamais trop tard pour améliorer le sort du monde. Et moi, vraiment, je sens ce courage, et je sens ici qu'il y a beaucoup d'énergie. Je sens que vous allez contribuer à améliorer l'avenir de notre pays, l'avenir de nos enfants et de ma petite fille là qui est née il n'y a pas longtemps, Béatrice. Alors, pour tout ça, je vous remercie, chers amis. Continuons de travailler ensemble. Alors, on remercie Jack Layton. Alors, écoutez, n'allez pas trop loin. Écoutez, vous savez, Jack, on a l'habitude de remettre un cadeau. Alors, j'ai une demi-douzaine de cravates oranges à vous remettre. Non, c'est une blague. Mais écoutez, Jack ne voulait pas recevoir le cadeau habituel. Alors, il a préféré qu'on remette une somme d'argent à un organisme de charité. Alors, on va remettre ça au groupe de coalition pour les services de garde à l'enfance. Alors, merci à vous, Jack Layton.
Cette balado-diffusion a été réalisée au Congrès national 2009 du SCFP.